Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial. C'est la 24e de la saison 6 et je suis toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Mais pas seulement, vous allez comprendre aujourd'hui avec une émission assez exceptionnelle au menu. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité, mais deux champions, deux immenses champions qui seront avec nous. Deux immenses champions sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'un est encore en activité, l'autre est retraité. Ce n'est pas forcément le plus âgé des deux, vous allez comprendre rapidement. Avec nous, Benjamin Kaiser, ancien talonneur de l'équipe de France, 37 sélections, deux titres de champion de France, avec le Stade français en 2007, avec l'ASM Auvergne, en 2017. Et puis avec nous également, Nicolas Karabatic. Alors, vous nous excuserez évidemment, mais on n'a pas assez de temps pour détailler la litanie de titres de Nicolas. Certainement le plus grand handballeur de tous les temps, le plus grand handballeur français en tout cas. Il vient de disputer encore la finale des championnats du monde. Il a 38 ans. Il a annoncé en fin de semaine dernière qu'il allait poursuivre l'aventure avec le PSG Handball, peut-être même jusqu'aux Jeux Olympiques. Bref, deux immenses champions qui sont avec nous pour évoquer leur rencontre et leur association. Vous verrez qu'un champion sur le terrain peut l'être aussi également dans la vie de tous les jours. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, hein, d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts? Poulain Rafute, épisode 24, saison 6. C'est parti. Allez, Raph, évidemment, je te laisse la main. C'est à toi d'expliquer les raisons pour lesquelles tu as souhaité absolument recevoir aujourd'hui Benjamin Kaiser et Nicolas Karabatic.
Oui, Arnaud, on l'a déjà dit, le sport a cette capacité à inspirer la société. Et selon moi, pas qu'en gagnant des médailles ou en étant performant sur le terrain. La société évolue, le monde change et nous pousse à nous remettre en question. La seule comparaison que je pourrais faire avec nos deux invités, au-delà d'avoir ne pas avoir joué les finales, oui, Benjamin, oui, on va le répéter d'une fois, deux fois, c'est bon. Mais en fait, le point commun qu'il y a entre Arnaud, Benjamin, Nicolas et moi, c'est que tous les quatre, on est papa et que notre génération a la responsabilité de se remettre en question et de trouver des solutions ensemble et sûrement plus rapidement que celles de nos parents. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre. Oui, la donne a changé. Oui, la donne change. Il faut du changement, des actes forts, des prises de conscience, car il y a urgence. La montée des extrêmes, le changement climatique nous pousse à nous remettre en question et à nous poser cette question essentielle et existentielle. Ben quel monde, en fait, on veut laisser à nos enfants? La donne a changé. Personnellement, moi, ça me rend dingue de me dire qu'on reste le cul assis dans nos canapés moelleux et rester spectateur d'un monde qui part en couille sans avoir rien fait. Des solutions existent, des actions concrètes sont mises en œuvre et on est ravis de pouvoir mettre en avant celles menées par Benjamin et Nicolas. Et parce qu'au-delà des parcours de sportifs et des médailles qui vont avec, ils se bougent et mènent à bien des projets d'envergure pour changer le monde. Il en va de notre responsabilité en tant que médias de les mettre en avant pour inspirer nos concitoyens et ouvrir le champ des possibles ensemble. Alors, on va parler fonds d'investissement, on va parler insectes aussi, on va parler peu de sport, même si c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Messieurs, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, on pourrait parler des heures, comme je l'ai dit, de vos palmarès, comme l'a dit Arnaud, mais aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant une initiative. Il y a peu, Benjamin, tu as créé Team Pack & Venture. Tu sais que j'aime mon accent, mais tu as un bien meilleur accent que le mien. Je sais. Une structure d'investissement permettant aux sportifs d'investir et de s'engager aux côtés de startups qui ont des forts potentiels économiques et surtout qui ont un impact positif sur la planète. Alors les gars, moi, la première question, Nicolas, j'aurais voulu te la poser parce que tu as 4 mois d'avance. Tu es le plus vieux, tu es le plus ancien, mais c'est Benjamin qui quand même est à l'initiative de cette petite émission ce soir. Donc ma première question, Benjamin, qu'est-ce qui t'a créé à pousser ta boîte, Team Pack Venture, et pourquoi ?
Ben, merci de nous avoir. Déjà, merci pour l'accueil et pour la mise en ambiance. Alors, je partage beaucoup de choses que tu as dit, évidemment. Team Pack Ventures, donc c'est comme tu l'as dit, c'est une société d'investissement. C'est surtout pour nous, c'est notre façon de pouvoir impacter positivement le monde. C'est en investissant et en amenant le meilleur du sport à des startups qui vont impacter positivement la planète, le monde, potentiellement les deux. Parce que réellement, c'est les startups qui vont gagner dans le monde de demain, parce qu'on est dans un monde de performance. C'est celles qui vont mettre le capital humain au centre de la performance, comme ingrédient central de la réussite dans la durée. ce mindset, on peut l'appeler people first. Et pour moi, ce qui définit aussi les grandes entités sportives, des très bons aux meilleurs, aux dynasties de victoire, et donc moi, je ne peux pas me dire que j'en fais partie, mais Nico, oui, sont toutes celles, évidemment, qui ont des sportifs d'exception avec un mental qui dépasse l'entendement, mais aussi qui ont des capacités à créer des équipes qui performent dans la durée. Et ça, c'est un truc que tout le monde, toutes les entités nous envient. Et donc, c'est ces deux mondes qu'on a envie de réconcilier, l'investissement, l'impact positif par l'innovation, mais boosté par le meilleur du sport. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire. Il y a un vrai besoin dans le monde de la tech qui va représenter en plus peut-être 50 ou 60% du marché de l'emploi très bientôt. Il y a une tendance de sportifs aux US qui investissent dans la tech parce que c'est moderne, parce que c'est sexy, parce que c'est différent. Et on voulait juste orienter ça pour qu'ils amènent leurs capitaux, OK, pour des boîtes surtout qui en valent le coup, comme tu l'as très bien dit, pour des boîtes dont on serait... People First, c'est une boîte dans laquelle on serait fier de voir nos enfants travailler plus tard, qui impacte positivement la planète. Et enfin, qu'on a extraire le meilleur des sportifs, et Nico en fait bien partie et l'illustre bien, qui est soit le mental des sportifs d'exception, ou une capacité à créer des collectifs qui gagnent dans la durée.
Alors Nicolas, j'ai cru comprendre, bon après on connaît nos sports respectifs, hein, vous partagez la même notion de combat et surtout d'amitié, je te sais aussi très pote avec Pierre Rabadan, oui. Et voilà, tu as la volonté d'affronter ensemble les défis auxquels le monde doit faire face aujourd'hui. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu de rejoindre justement l'aventure liée à l'environnement, à l'écologie, et notamment avec Benjamin?
Oui, ben déjà, bonsoir tout le monde. Merci, Raph, de nous accueillir, de nous donner la parole. Qu'est-ce qui m'a convaincu? En fait, moi, j'étais un peu comme tu disais, en plein questionnement. Je suis sportif de haut niveau, c'est génial. J'ai gagné plein de titres, j'ai une vraie vie, la vie que je mène, celle dont j'ai rêvé depuis que je suis tout petit. Mais là, je venais d'être papa, on voit tous le monde qui part en couille, hein, on va pas se le cacher, et j'étais un peu à me questionner qu'est-ce que je peux faire, en fait, qu'est-ce que je peux faire concrètement de plus que associer mon image, donner mon image à des assos, à des œuvres caritatives, faire passer des messages, qu'est-ce que je peux faire vraiment concrètement pour aussi aider à lutter contre le réchauffement climatique, inciter à la transition écologique. Et en fait, c'est marrant parce que le destin fait bien les choses. 2-3 mois après, je rencontre Benjamin et Romain, les fondateurs de Teampact, autour d'un déj, et ils m'expliquent le principe de Teampact avec le Venture Capital. Un sujet auquel je comprends pas grand chose à la base, mais ce qui m'a vraiment séduit, c'est surtout l'opportunité d'apporter l'expérience du sportif de haut niveau à des personnes, à des entrepreneurs, à des CEO qui montent des startups à impact positif, et notamment dans le climat, et en fait ils m'ont expliqué que nous, en tant que sportifs, on peut vraiment faire changer la donne, et on peut aider ces personnes-là qui sont dans la compétition, comme nous, tous les jours, à faire en sorte que leur start-up réussisse et s'impose, et donc de faire d'une pierre deux coups, quoi. De faire en sorte que ces start-up-là, qui sont celles qui peuvent, entre guillemets, sauver, peut-être pas nous sauver, mais rendre demain meilleur, réussissent. Et donc, voilà, ça a été tout un tas de... ça a été une super rencontre. En plus, on s'entend vraiment très, très bien. Et donc voilà, Benjamin m'a ouvert le champ des possibles et m'a expliqué, c'est vrai qu'en France, on valorise pas forcément assez l'expérience des sportifs, enfin, on la met en avant, et on met en avant les titres qu'on gagne, c'est génial, mais c'est vrai qu'on, en tout cas moi en tant que sportif, j'avais pas vraiment conscience de ce que je pouvais apporter à des entrepreneurs, au-delà de l'image, à des entrepreneurs, à des personnes, enfin... guillemets hyper smart, mais qui des entrepreneurs et des mecs qui se lancent, j'avais pas conscience que mon expérience pouvait être si importante.
C'est d'ailleurs
cas,
là,
leur apprendre.
C'est d'ailleurs, je pense, le questionnement de notre génération qui avons connu le sport vraiment de haut niveau, très professionnel. Et aujourd'hui, quelles sont nos compétences dans le monde d'après? On en a déjà parlé avec avec Benjamin sur qui je suis, quelles sont mes compétences quand tu as marqué tant de buts, tu as marqué tant d'essais, tu as pris tant de raffus. Et quelle est ma compétence et mes compétences dans le monde d'après? Et c'est vrai que le sport de haut niveau, on parle notamment de mental, et c'est tout l'aspect que tu mets en avant, Benjamin, il est aujourd'hui essentiel. Donc c'est vrai que c'est, on n'est pas que des corps, on n'est pas que des corps et un palmarès dans le monde du sport, et derrière on n'est pas que des prête-noms et une image, c'est que derrière tu as une sensibilité, tu as des émotions, tu as un mental, et tu as surtout des compétences, quoi. Et ces compétences, il faut les mettre en avant, qui ne sont pas obligatoirement les compétences qui sont dans le monde de l'entreprise, mais c'est cette plus-value que tu mets en avant d'ailleurs, Benjamin.
Absolument. Et tout ce que tu viens de décrire, c'est le portrait de robot d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un d'uniquement smart. C'est un mec qui a une idée, mais qui doit se jeter dans l'abysse, qui doit se jeter dans un vide parce que tu crées des trucs qui n'existent pas. Donc, tu n'es pas backé par les banques. C'est aussi le rôle du venture capital, c'est d'aller financer cette innovation parce que les banques ne vous suivent pas tant qu'il n'y a pas de profit. On parle de tech, mais la tech, c'est l'entreprise de demain. On pourra parler demain des boîtes dans lesquelles on a investi, si tu veux. C'est pas que du software,
après,
des trucs qui sont très... Ouais, on en parle notamment. C'est pas que du software ou des logiciels, des trucs qui sont ultra abstraits. C'est aussi juste des boîtes connectées. C'est de l'économie circulaire. Donc, c'est réutiliser les ressources qu'on a déjà et c'est construire demain positif. Mais donc, l'entrepreneur, il doit se casser la gueule. Il doit être résilient. Il doit être charismatique. Il doit savoir les avis comptent. Il doit savoir rester à la pression, il doit savoir filtrer les médias, il doit savoir penser à lui, penser à son équilibre à lui, parce que tu ne peux pas être pied au plancher pendant 10 ans. Et 10 ans, finalement, c'est le temps de durée de vie d'une boîte. Bah, c'est plus ou moins le temps de carrière, sauf quand tu t'appelles Nico, que tu joues pendant 20 piges en équipe de France. Mais tu vois, normalement, c'est à peu près la carrière d'un sportif. Et donc, ouais, les parallèles sont directs, avec deux mondes qui ne se parlent pas du tout assez, parce qu'il y a une espèce de double syndrome de l'imposteur. Les sportifs qui se disent « qu'est-ce que je peux bien leur apporter ?» Et franchement, des entrepreneurs qui disent « mais Nico, ça ne va pas l'intéresser de me parler parce que ce n'est pas dans son domaine. » Et donc nous, on crée un pont entre les deux.
Tu humanises en fait. Et comment mieux humaniser aussi que de parler du droit à l'échec ? Ben, Nico, tu vois, tout à l'heure, on va le dire en off, il y a le petit d'Arnaud qui passe et qui te parle de la finale. Et c'est un échec, mais tu te construis comme ça, en fait, tout au long de ta vie. Et c'est ce que on aurait pu reprocher un peu au monde d'avant, de mettre en avant les sportifs quand ils sont glorifiés, quand ils ont les grands titres. Mais quand ils se cassent la gueule, tu les montes du doigt dès qu'ils dépassent la ligne blanche ou quand ils sautent, alors qu'ils sont humains. Et c'est peut-être ça, c'est de garder le rêve de ce que représente le sportif, mais de montrer aussi qu'on a le droit de se casser la gueule. Et c'est cet exemple-là aussi, tu parles de l'entrepreneuriat, tu parles du sport, alors on a le droit de se casser la gueule. Mais c'est très français de caricaturer un petit peu l'échec et de rester un petit peu dans ce côté un peu mièvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Je pense que ça humanise un peu de parler aussi de ses échecs, de sa vulnérabilité. Voilà, c'est la vie, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis, je ne pense pas que ce soit que français, en tout cas dans le sport.
On compare souvent aux États-Unis, pardon.
Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on... Aux États-Unis, ils valorisent l'échec, mais bon, ils chient autant sur la gueule à ceux qui, aux sportifs qui perdent en finale. Donc, oui, c'est vrai. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça. J'ai heureusement et malheureusement gagné très vite dans ma carrière. À 18 ans, 19 ans, j'ai gagné des titres majeurs. Donc, je me suis habitué à la victoire sans connaître l'échec. Et mes premiers échecs ont été dévastateurs. Et c'est qu'en grandissant qu'on se rend compte en fait que les moments d'échec sont des moments hyper enrichissants si on sait les surmonter, si on sait les aborder, et que l'échec en fait ce sont des moments charnières dans une carrière, et il faut pas en faire quelque chose de tabou.
On va entrer, messieurs, quand même dans le cœur du sujet. Dernièrement, donc, vous avez décidé d'investir au sein d'une société qui s'appelle Anthocycle, qui a pour objectif, et je reprends les éléments de langage de Benjamin, quand même, de démocratiser l'accès à la protéine d'insectes afin de réduire l'impact carbone sur l'industrie agroalimentaire mondiale. Il y a aussi d'ailleurs Antoine Dupont, demi de mêlée du 15 de France, avec vous dans ce tour de table, qui était encore à Rome hier et qui a battu l'Italie, avec ses partenaires évidemment. Comment, messieurs, vous choisissez finalement un projet plus qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait que c'est un choix collégial ? Comment ça fonctionne ? Racontez-nous un peu comment vous faites.
Alors, il y a une équipe d'investissement qui fait ça. Moi, je suis aussi associé quand même avec quelqu'un qui fait du venture capital qui s'appelle Romain Vidal depuis 12 ans. Je ne me suis pas improvisé investisseur non plus à aller screener des boîtes. Il ne fallait pas déconner. Autant, on peut aider vraiment. Ils appellent ça une due diligence quand tu fais ton screening, un peu de savoir si la boîte t'intéresse ou pas. Donc évidemment, il y a tout un process d'investisseurs qui est en place avec une vraie équipe d'investissement, et on a un troisième cofondateur qui s'appelle Basile Aguet, qui est un ancien rugbyman de Carcassonne, qui s'occupe lui de toute cette verticale climate tech, green tech, etc. Donc il développe une vraie expertise. Mais en plus de ça, nous, ce qu'on amène, c'est qu'on amène un audit des people. On amène un audit du people first qui s'appelle Score. Donc, on regarde la situation people à l'intérieur des boîtes, parce qu'on considère que s'il n'y a pas une boîte qui considère que l'épanouissement du capital humain, c'est l'ingrédient central de la durée, peu importe la mission, elle n'arrivera pas à la souvenir. Et donc, tu parles d'AntoCycle. On a fait plein d'autres deals, si tu veux, dans l'économie circulaire, dans la santé mentale avec Alan Mind, dans les services pour les jeunes, dans la reforestation avec Morpho et Nico Yé aussi, dans l'électroménager reconditionné. Mais AntoCycle, c'est un deal vraiment important pour nous parce que c'est un deal non français qui était absolument sursollicité, que nous, on n'a pas déniché, pour être tout à fait honnête, mais on nous a amené sur ce deal pour cette valeur ajoutée, pour ce screening du people, etc. Et donc, ils veulent devenir l'Intel un peu de la ferme d'insectes. L'insecte va devenir une source alternative de protéines qui a évidemment des bénéfices sur la planète plutôt stratosphériques par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Pour le moment, pour la nourriture animale, à mon avis, c'est une histoire de mois ou voire d'années pour les humains. Et on imagine bien que les insectes, bah, ça prend vachement moins de place que les vaches. Et donc, c'est peut-être potentiellement une solution magnifique. Je ne dis pas que ce sera la seule solution, mais en tout cas, ça peut être une vraie alternative. Et eux, on a eu la chance de pouvoir convaincre trois sportifs qui avaient envie de s'engager, parce que tu as parlé de Toto Dupont, tu as parlé de Nico, mais il y a aussi Antoine Brizard, qui est le meilleur joueur du monde de volleyball, champion olympique avec l'équipe de France en 2021, qui a envie d'investir dans cette boîte. Et James Haskell, mon ancien partenaire du Stade français, le grand blond d'idées.
UFC MMA.
Que j'ai ramené là-dedans, évidemment. Et voilà, et donc ils sont en train de créer des machines qui vont pouvoir outiller les futures fermes d'insectes pour produire cette protéine. Et donc c'est un deal vraiment important pour nous parce qu'il nous met à hauteur des plus grands investisseurs du monde sur cette verticale-là, grâce aux sportifs, mais surtout grâce à ce qu'on amène en tant qu'équipe, qui est cet audit et cet accompagnement.
Et donc tu parlais justement des sportifs et des sportifs qui s'investissent. Il y a Gaël Ficou aussi dans Team Préfecture, Damien Penaud, Julien Marchand et encore toi Nicolas. Alors moi j'ai une question qui est toute bête. On va parler de ce que vous avez misé aussi sur Baroudeur. C'est une plateforme de vente d'équipements sportifs de seconde main. Donc la question c'est est-ce que ça vous est venu comme ça d'un coup ou il y a toujours eu durant vos carrières respectives, à toi Nicolas notamment, est-ce que tu as été sensible à ce genre de sujet ou est-ce que c'est l'arrivée des enfants? Est-ce que c'est une maturité qui arrive? Et puis, avec, on l'a dit, hein, ces grands changements aussi climatiques, les grands changements du monde dans lequel on vit en ce moment. Est-ce que ça a été sur la durée? Est-ce que c'est une question d'éducation? J'aimerais que vous m'éveillez un peu là-dessus, justement, sur ces problématiques.
Bon, moi, je pense que c'est un mix de tout, de l'éducation. Bien sûr, moi, dans l'éducation que j'ai reçue, j'étais très tôt sensibilisé au respect des autres personnes, mais aussi au respect de l'environnement. Je pense que c'est lié. Et puis, comme tu dis, je pense qu'on est une génération qui a grandi et qui s'est rendue tout de suite compte que notre monde industriel, on n'allait pas pouvoir continuer comme ça et qu'on allait droit dans le mur. Donc, je pense que le fait d'avoir en plus des enfants, ça accélère la prise de conscience. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de global. Et après, en même temps, en étant sportif de haut niveau, soumis à des rythmes de compétition effrénés, ma prise de conscience est aussi passée par mon corps, où je devais faire attention à mon corps, à ce que je mangeais, puis ce que je mange, quel impact ça a en fait au final sur mon corps, mais pas que sur mon corps, sur l'environnement aussi. Donc ça a été un peu une prise de conscience globale si je voulais faire faire durer ma carrière le plus longtemps possible, mon corps, fallait que j'en prenne soin. Et après en fait c'est un peu la même chose aussi avec l'environnement, avec tout. Donc c'était pour moi, un peu une prise de conscience globale au fil de ma carrière. Et ça m'a amené aujourd'hui à réfléchir à ce que je voulais faire de mon après-carrière et en fait de tout ce que j'ai construit durant ma carrière. Donc voilà, ça a été un cheminement. Et aujourd'hui, je suis content d'en être là où j'en suis.
J'ai envie de me faire un kiff juste deux secondes, les gars. Je vais sortir un peu du débat par rapport à tout ce qu'on se raconte. Mais la révolution féminine aussi qui est en marche aujourd'hui, est-ce que notre génération qui a été éduquée avec un patriarcat, avec des managers, avec beaucoup de patriarcat, vous voyez bien la fameuse pyramide avec Dieu, le Saint-Père qui est au-dessus de nous quand on est manager. Est-ce que nos femmes aussi et les managements que vous avez connus dans le monde du sport, est-ce qu'ils doivent aussi se révolutionner, je dirais? Alors, je vais parler de sensibilité, je vais parler de coaching mental, donc de psychologie, parce que c'est féminin. J'aimerais avoir votre point de vue un petit peu là-dessus, sur la révolution que l'homme doit avoir aussi en lui-même, parce qu'on est aussi dans... Tu parlais justement de l'industrialisation, et c'est cette conquête du monde extérieur que l'homme a, que peut-être la femme a moins. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas se conquérir aussi à l'intérieur? Donc, de se connaître aussi, par l'échec, par la remise en question, qui nous amène à être, à 40 ans, à 38 pour vous, à peut-être un petit peu plus responsable du rôle que l'on a. Ça peut paraître très, très philosophique, mais c'est des réflexions que j'ai, moi, depuis des années, sur l'éducation par rapport à nos enfants. J'ai deux fils, la place de la femme à nos côtés et trouver la place, notre place à leur côté. Je trouve que ça fait partie un peu du développement personnel et c'est ce qu'on se raconte aussi pour l'environnement, mais c'est lié aussi à nos comportements aussi individuels. Et c'est toujours cette quête de surperformance qui nous amène parfois à détruire le monde qui nous environne. Je me trompe peut-être, je pose ça là, c'est cadeau,
non,
les gars.
Non, mais écoute, si tu... Pour moi, déjà, bon, la richesse de la diversité, l'inclusion, l'équilibre homme-femme, c'est quelque chose que nous, on regarde dans notre score people. Mmh. C'est une obligation, d'une, parce que ça nous correspond plus en tant que personne, et de deux, c'est aussi une vraie demande qui va pouvoir assouvir, ou qui va permettre aux boîtes de gagner la guerre des talents, parce que la génération Z, maintenant, qui se pointe dans des boîtes, la sixième question, c'est le salaire. Mais la première, c'est la politique RSE, c'est l'impact sur le monde, sens. C'est l'équilibre homme-femme, c'est le sens, etc. Donc là, même d'un point de vue performance pure et dure, si tu oublies l'impact, les boîtes qui considèrent qu'elles peuvent passer outre ce genre de problème se mentent et vont se ramasser la gueule incessamment sous peu. Et tant mieux, parce qu'on a une génération Z et nous, on a quand même un cofondateur qui s'appelle Basile Aguet qui représente bien ça. Ils sont passés de l'idéologie à l'action, très clairement. Et ils sont bien en avance sur moi. Il me fait passer pour un vieux crouton alors qu'on a que 10 ans d'écart. Parce que vraiment, ils sont passés à une action forte. Voir certains, ça devient anxiogène pour eux. Donc, j'espère qu'ils vont trouver le bon équilibre. Mais il y a quand même des bons exemples. Faut pas dire que les vieilles générations sont toutes catastrophiques. Moi, quand j'étais à Oxford, on avait eu la chance d'avoir comme guest speaker Toto Wolff, tu sais, le manager de Mercedes ouais. Compétition. Et lui, c'était le plus ouvert sur son besoin de soutien psychologique pendant toute sa carrière, alors que c'est un mec qui a tout gagné tout le temps, non-stop. C'est un des premiers qui lutte pour la diversité et l'inclusion avec Lewis Hamilton en Formule 1. Sa femme, si je me trompe pas, c'était une des premières pilotes de Formule 1 de l'histoire. Et donc, il a toujours été leader de ce point de vue-là. Donc oui, il faut suivre des beaux exemples comme ça. Mais ça en revient à ce que tu disais au début. Il n'y a quand même pas beaucoup mieux que le sport et les sportifs pour ouvrir un peu les consciences, pour montrer l'exemple de ce point de vue-là et pour faire avancer les choses.
Et justement, d'ailleurs, messieurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que sportif, avec l'aura médiatique, l'aura populaire que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez ce devoir d'exemplarité, finalement ?
Bon, là, je peux laisser peut-être Nico répondre, parce que je pense que ça lui correspond plus. En tout cas, moi, ce que je sens en discutant avec Nico, c'est que c'est un truc qui l'anime. Je pense qu'il parle beaucoup de sa famille et de ses enfants. Mais c'est aussi une responsabilité de dire, quand tu as représenté la France tellement... que tu as envie de montrer un exemple positif pour ton cercle privé, mais ensuite pour tout le monde, bien sûr.
Oui, devoir d'exemplarité. Je pense qu'on est tous... c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on est exposé, donc on regarde nos moindres faits et gestes, et quelque part, je sais pas si on a un devoir d'exemplarité, chacun a son libre arbitre, donc il fait ce qu'il veut, et parfois on est un peu trop scruté, mais en tout cas moi je sens quelque part une responsabilité maintenant, d'autant plus que j'arrive en fin de carrière, que je vois dans mes équipes comment les jeunes me regardent quand je suis sur le terrain à l'entraînement, ce que je fais, et je me rends bien compte que ça a des impacts, qu'ils essaient de reproduire la même chose, et donc je me dis que pas que sur le terrain, ce que je fais en dehors aussi peut vraiment impacter des gens, et on le voit maintenant avec les réseaux sociaux, quand on pose des choses sur les championnats, des vidéos, on voit les gens qui réagissent et on se rend compte de l'impact de nos actions, et donc oui, au final on a une responsabilité, mais ça peut être aussi assez pesant, donc moi j'essaie de faire les choses le plus naturellement possible, sans rien revendiquer. Et si ça peut faire bouger les lignes et inspirer les jeunes et les moins jeunes, ben c'est génial. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de faire en sorte que tout ce que j'ai fait pendant ma carrière, je puisse l'utiliser d'un côté positif.
Est-ce que le sport aujourd'hui est complètement exemplaire ? Alors la question, je pourrais la poser, mais il n'est pas là. Julien Pierre, que tu connais bien, Benjamin, et que tu dois connaître aussi Nico, qui est un mec qui s'investit vachement avec... c'est quoi
Fair Play for Planet.
Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez-vous que le sport est aujourd'hui complètement exemplaire, ou en tout cas le devient d'un point de vue de développement durable ? C'est des petites actions au quotidien ou
Exemplaire. Bah, quand tu sors des JO et de la Coupe du Monde de foot au Qatar, on ne peut pas dire qu'on est exemplaire, les gars. On est à des années-lumière même de ce qui peut être fait. Mais là où Nico il a raison, c'est que ce n'est peut-être pas un devoir, mais c'est une responsabilité d'essayer. Je ne suis pas en train de te dire que le sport est parfait. Et le meilleur du sport n'est pas parfait et peut être une inspiration. Tous les sportifs ne sont pas parfaits. On a aussi des tricheurs, des menteurs et des voleurs qui sont des mecs qui ont gagné. Donc tu vois, on essaie de pas tout résumer, on essaie de, en tout cas, d'amener nos armes pour un combat qui nous correspond et qui nous définit. Mais évidemment qu'on a tous des progrès à faire. La façon dont le sport, c'est une façon de consommer la vie. Et la vie, la façon dont on consomme la vie, on doit tous l'adapter parce que le monde n'est plus le même. Et le sport peut évidemment montrer un grand bout de chemin là-dessus, et Jupy fait du super boulot.
Le fait de mettre en œuvre ce genre d'initiative entre sportifs de haut niveau, est-ce que ça crée entre vous une forme de dynamique? Est-ce que ça crée plus d'échanges justement sur ces sujets qui sont devenus majeurs aujourd'hui dans notre société? Parce que, on va le dire, hein, parler 24 heures sur 24 de son sport, ça peut être un peu redondant, voire un peu chiant.
Je ne sais pas si c'est une émulation intellectuelle. En tout cas, déjà, ça nous permet de rencontrer d'autres sportifs qui viennent de sports différents du sien et qui ont les mêmes sensibilités. Et du coup, je crois beaucoup à la force de l'équipe et du collectif, et de rajouter des sportifs de tous horizons qui ont, voilà, cette sensibilité-là, qui apportent leur expertise, leur finance, leur savoir-faire et aussi leur image. Pour moi, ça a un potentiel énorme et ça multiplie l'effet de Team Pack. Donc moi, je trouve ça génial d'être associé aux deux Antoine Dupont et Brizard sur AntoCycle, par exemple, ou à Gaël Ficou sur Barouders, d'échanger là-dessus. On s'est vu, on en discute. Ça me permet de rencontrer des sportifs que j'aurais pas rencontré d'autre manière. Donc c'est en plus, voilà, une opportunité de rencontre humaine géniale.
Nicolas, tu viens d'annoncer que tu prolongeais d'un an ta carrière avec le PSG et peut-être avec l'équipe de France, on va voir. Mais est-ce que le sujet de ta reconversion est une préoccupation aujourd'hui? On le voit après la question et on est en train d'en parler justement. Mais à quel moment, en fait, tu as eu le déclic de penser à ta reconversion? C'est un sujet aussi, moi, qui m'anime beaucoup parce que j'ai arrêté ma carrière très tôt. Et on parle toujours du double projet dans le rugby. On demande déjà aux gamins à 20 ans de penser à ce qu'ils vont faire à 35 ans alors qu'ils n'ont même pas encore joué un match de top 14 ou de Tourtel Cup, comme je l'appelle. Mais toi, est-ce que c'est un sujet, en tout cas, qui t'anime depuis longtemps, ou plus tu avances et plus tu as un peu de stress, d'appréhension?
Non, ça ne m'animait pas depuis très longtemps, le projet de ma reconversion. Ça a commencé il y a 2 ans, quand j'arrivais en fin de contrat, et quand tu arrives vers 35-36 ans, tu arrives en fin de contrat et tu prolonges à chaque fois d'un an tes contrats parce que tu sais jamais comment ton corps va tenir. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler mon après-carrière, et c'est pas facile du tout. Et donc, c'était un cheminement, un questionnement: qu'est-ce que je veux faire après avoir vécu mon rêve? Donc les questions sont venues petit à petit, et c'est avec des rencontres, en fait. C'est aussi pour une des raisons pour lesquelles j'étais revenu à Paris, pour faire des rencontres, pour être sur Paris, parce que je savais que c'était là que tout se passait, dans le sport, mais aussi dans le monde des affaires, et j'avais raison. J'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont ouvert différents horizons. Donc Impact, moi, j'ai vraiment envie de creuser et de m'investir beaucoup plus une fois que j'aurai arrêté de jouer, mais j'aurai aussi d'autres projets en tête qui me tiennent à cœur. Et on a des stages, on a une académie d'handball avec les jeunes, avec mon frère, on montre notre fonds de dotation. J'ai commencé à travailler aussi un peu avec des médias, avec Canal+, donc j'ai envie de faire aussi pas mal d'expériences pour me rendre compte de ce qui me plaît vraiment, et choisir et réorganiser, en tout cas être maître de mon temps après ma carrière. Et parce que ça fait plus de 20 ans, ça fait 30 ans que je suis professionnel, en fait. Ouais. Depuis que j'ai 10 ans. Donc j'ai aussi envie de faire d'autres sports, de faire du rugby, de m'amuser, de tester plein de trucs.
Et avoir le même blase que Pierre Rabhadan, mais ça, tu l'as déjà, en fait. Hein. Tu avais le même blase, hein. C'est bon.
Justement, petite digression sportive, Nicolas, on profite parce que tu es avec nous. Qu'est-ce qui t'a poussé à 38 ans à te réengager une année avec, une année supplémentaire avec le PSG Handball. Est-ce que c'est quoi? C'est la peur du vide? C'est l'envie de continuer encore à gagner alors que tu as déjà tout gagné? Ou est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte aussi que tu avais toujours ce même niveau de performance, même si on a lu dans les médias que tu jouais peut-être un peu moins sur les matchs que par le passé?
Ce qui m'a poussé à prolonger, c'était en fait, je voulais voir déjà si j'étais encore bon à mon âge et si mon corps pouvait encore tenir les rythmes de match. Et ça, je m'en suis rendu compte au début de saison que ça allait encore, que j'étais bon et que mon corps tenait le choc. Et deuxièmement, c'est que je prends toujours autant de plaisir sur le terrain. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et en fait, je me suis rendu compte que là, plus j'approche de la fin, et c'est même si je suis toujours à fond et que j'ai toujours envie de gagner et que je donnerai tout sur un terrain ou un entraînement pour gagner les matchs, mais ce qui m'anime plus maintenant, c'est le plaisir d'être en fait sur le terrain, de jouer, m'éclater avec mes potes et la gagner des titres. C'est vrai que mon ego a été assez rassasié. J'en ai gagné pas mal, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc c'est plus ça, plus le plaisir, le bonheur de vivre mon rêve en fait et de le prolonger, de voir jusqu'à où mon corps peut aller.
Benjamin, on parlait de nez, enfin de nez, hein, de Blas, de nez, la virgule nag, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu ne l'as pas. Par contre, tu as le nez pour aller chercher les bons mecs et les nanas plutôt, plutôt chouettes et voilà, et compétentes. Comment tu fais? Explique-nous un peu le casting. Est-ce que c'est aussi ce que tu as vécu aussi d'arriver à renifler un peu les mecs dans les vestiaires? Est-ce que tu as cette intelligence émotionnelle que d'autres n'ont pas? Hein, tu as eu la chance, tu sais, tu connais l'allégorie du bus. Tu n'étais pas au début du bus introverti à foutre la tête là où les autres ne mettraient pas les mains. Tu étais plus le petit con à côté de Domi, à côté de moi, tu vois, à prendre tes marques, à devenir le papa de la connerie aussi fut un temps. Donc, comment tu fais pour aller, plus sérieusement, comment tu fais pour aller chercher t'es le cerveau de la bande, mais bon, il en faut d'autres aussi. Il faut des compétents que tu n'as pas. Donc, comment tu fais? Explique-moi un peu.
j'ai pas de capacité de renifler les bons mecs. Tout ce que je sais, c'est que les actes parlent beaucoup. Alors oui, dans le sport co, on a développé un radar humain assez fort. Franchement, moi, je connaissais très mal le hand. J'avais juste beaucoup de respect pour j'avais regardé évidemment tous les matchs de l'équipe de France, mais j'étais assez à distance de tout ça. Bah, c'est des cousins germains, les handballeurs. Hein. C'est quand même très, très proche. Au final, c'est quand même deux familles qui se connaissent très bien. Donc, il y a le même ADN de l'humilité, du don de soi, du besoin de l'autre, du goût pour le combat quand même, du goût pour la physicalité, tu vois, pour la confrontation physique. Et donc, au final, ça te définit quand même pas mal. Donc, tu as une franchise, tu as une honnêteté, tu as des mecs qui vont te dire quand c'est noir, quand c'est blanc et quand ça va pas. Et ça me parlait beaucoup. Et donc, bah, avec Nico, c'est une chance de pouvoir juste connecter presque de façon animale au début, puis ensuite amicale, professionnelle. Et tous les autres, c'est souvent énormément c'est de la recommandation. Hein, tu sais, les filtres, les amis de mes amis sont mes amis, ça fonctionne quand même plutôt très très bien. Mais ensuite, on laisse les paroles et on laisse les actes plutôt parler pour nous. Donc, on construit une boîte, on essaye de montrer à quel point on est fier des boîtes dans lesquelles on a investi. On va en parler et là, forcément, ça attirera ceux qui sont foncièrement convaincus par l'importance de la mission et des valeurs sincères. On n'aura jamais un radar parfait, mais en tout cas, on essaie de l'aiguiser un maximum, c'est sûr.
Vous connaissez vos gabarits respectifs. Est-ce que, Nicolas, quel poste aurait pu jouer Benjamin avec son physique de sanglier? Et Benjamin, quel poste aurait pu jouer Nicolas avec son physique de rabat-dent?
Moi, au hand, c'est facile. Il y a toujours un mec qui vient avec une espèce de petite serpillière quand il y a de la sueur, là, tu sais. Tu sais, le mec qui vient astiquer les parquets, là. Bah, ça aurait été mes zigs. Tu sais, celui avec son groin, justement, l'espèce de sanglier qui vient nettoyer, bah, ça aurait été moi. Voilà.
Non, Ben, il aurait été pivot. On l'aurait mis dans la défense. Il aurait cassé les défenses en deux.
Et Nico, tu l'aurais bien vu, Benjamin, tu l'aurais bien vu ou quoi? Ailier, tu vois, puissant, genre à la Saraméa.
En étant tout à fait honnête, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est des animaux, les handballeurs, en fait. Ils sont vraiment très costauds, les mecs. Hein.
Bah, vu que tu n'es pas monté sur un match au plus, toi,
je suis allé voir un match au PSG Handball, justement, et je ne sais plus comment il s'appelle. L'espèce d'immense mec, le pivot, il est russe, je crois, un animal au milieu de tout ça, là. Et tous, ils sont costauds, et même Nico fait moins costaud que les autres. Par rapport à ça, même ton frère Lucas, c'est un beau bébé. Lucas aurait été un super deuxième ligne, troisième ligne de rugby, ouais. C'est sûr. C'est vraiment des beaux bébés. Donc non, Nico, troisième Iniel ou un Charlie Magne, tu sais. C'est un mec athlétique qui aurait pu jouer 12 ou 7, mais beaucoup de mains. Emmanuel Arignor de qui à attendre les diagonales sur le côté là, ouais, pour jouer un peu dans les airs.
Au-delà de ça, plus sérieusement, est-ce que ce n'est pas justement le deuil de l'après-carrière qu'il est très difficile à faire? Et en fait, tu l'as transformé. À la limite, avec ce que tu viens de créer, c'est que tu transformes. C'est-à-dire que ce qui manque quand une carrière s'arrête, ce n'est pas les 10 000 personnes dans un stade ou peut-être 5 000 dans une aréna où tu peux jouer, Nico. C'est le croche-patte à l'entraînement, c'est la vie sociale que tu crées avec tes potes.
On est des animaux de compétition. Et donc, si on pense qu'on met les chaussons à 35 ans et puis qu'on fait les mots croisés, on se ment. Donc, en fait, ce n'est pas une reconversion. C'est juste une façon de progresser, d'assouvir ton esprit de compétition. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que tu passes des terrains du parquet à la vraie vie. Et c'est sûr qu'il y a un changement plus violent, quoi.
Il te fait peur, ce changement, Nico, ou pas?
Non, pas du tout. J'ai même, par moment, hâte.
Ouais.
Ouais, j'ai même hâte d'y arriver. Enfin... Je suis super heureux parce que ma vie, je suis comblé dans tout ce que je fais, mais j'ai aussi hâte d'arriver à ce moment où je serai plus handballeur tous les jours et où je vais me rendre compte que, en tant que personne, je suis pas défini par ce que j'ai fait avant dans ma carrière. Et je suis pas que mes titres et mes années de handballeur, je suis autre chose aussi. Donc, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là et de me rendre compte de ce que c'est d'arrêter ce premier rêve et d'ouvrir la porte de ma seconde vie où tout est ouvert et où je peux écrire et je suis libre de faire tout ce que je veux. Donc non, ce sera peut-être difficile, j'en suis convaincu, mais ça ne me fait pas peur. Et donc ouais, non, j'ai hâte.
Il y a une caractéristique commune, c'est qu'on a le sentiment que ce que vous avez produit sur le terrain, cette envie de gagner, on la retrouve quand même dans vos projets. Dans l'après-carrière. C'est-à-dire qu'on imagine très bien que si demain il y a un investissement qui ne se passe pas bien, on imagine que ça peut être comme après un match où tu as pris 30 points. C'est ça un peu, non?
Sauf que là, c'est 30 millions. Bon.
C'est sûr, ça va pareil. Non, mais très clairement, écoute, moi, le rugby, en plus, j'ai découvert ça un peu sur le tard. Ça a été une façon pour moi de m'exprimer, mais ça ne m'a pas défini en tant que personne à la base. Et c'est juste que j'étais meilleur au rugby qu'aux autres sports, et c'est pour ça que je l'ai choisi, franchement. Il me manquait à peu près 40 cm pour jouer au basket, et le rugby c'était mieux pour moi. Mais oui, bien sûr, la compétition, ça reste ça. J'ai envie de faire les choses à ma façon, donc un peu de façon franche, directe, toujours curieux, envie de m'inspirer des autres. C'est pour ça que la technologie et l'innovation, c'est cool, parce qu'un coup c'est les fermes d'insectes, l'autre fois c'est la reforestation, enfin c'est des trucs qui sont absolument pas dans mon domaine de prédilection, donc je suis obligé d'apprendre tous les jours, de me challenger tous les jours. Par contre, de ne pas savoir, de me ramasser la gueule et d'avoir tort, ou en tout cas juste de ne pas savoir, ça ne me fait pas peur. Et je préfère aller chercher les réponses et les trouver. Et oui, l'esprit de compétition, j'espère ne jamais le perdre, parce que je perdrai un bout de mon âme, ça c'est sûr.
Ah, c'est pareil, j'imagine, pour toi.
Je ne sais pas encore, parce que parfois j'en ai un peu marre de l'esprit de compétition. Je sais qu'on en a besoin, bien évidemment, mais j'ai pas envie d'être en compétition tout le temps. Je suis en compétition depuis que je suis né, donc il y a un moment où je serais content de pas être en compétition, pouvoir vivre ma vie sans être en compète avec n'importe qui à côté et à regarder qui a gagné le plus de médailles. Donc quand il faudra, je remettrai l'habit de compète, ouais, où je partagerai. L'idée, c'est ça, de partager avec les autres mon expérience et ce qui m'a permis, voilà, d'être un grand compétiteur. Mais je pense que j'aurais envie de vivre ma vie avec un peu moins de compétition, hein, parce que c'est assez pesant aussi quand même au bout d'un moment.
Juste pour conclure, il y a un de vos associés qui était à Rome hier, qui a joué le premier match du tournoi des Destination, qui a gagné avec l'équipe de France, c'est Antoine Dupont. Est-ce que vous avez suivi un peu sa performance? Vu qu'on est un podcast de rugby, on vous pose la question, est-ce que l'équipe de France va s'imposer le week-end prochain à Dublin? En trois mots, je sais que ce n'est pas simple pour toi, mais vraiment en trois mots.
En trois mots déjà, c'est Julien Marchand, Gaël Ficou, Antoine Dupont. Il y avait trois des associés, pas un seul.
C'est vrai.
Et
je parlais sur Antocycle, pardon, parce que je l'ai prononcé.
D'accord. Alors, écoute, une performance italienne qui a souligné, parce que je les ai trouvés franchement très bons. Maintenant, ils s'en sont sortis. Je les trouve extraordinaires, l'équipe de France, de résilience et de capacité à se sortir de situations compliquées. Dublin, ça va être un immense choc. Ça va être, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Et on saura faire les comptes samedi soir. Mais au vu de comment on s'est régalé à retrouver le tournoi Destination, qui est quand même un truc franchement spécial, j'ai juste envie de me régaler samedi. Je leur souhaite tout le meilleur. Et s'ils sont à leur niveau, ils peuvent le faire. Mais ça ne va pas être facile.
Est-ce que tu suis le tournoi Destination, Nicolas, pour conclure?
Je suis le tournoi Destination. J'ai vu juste le résumé du match contre l'Italie. Mais bien évidemment que je suis le tournoi. Que ça fait, toujours passionnant de regarder les matchs de rugby et regarder les potes jouer. J'ai aussi un de mes meilleurs potes qui est dans le staff, Nico Jean-Jean, des préparateurs physiques. Donc, oui, je suis un grand fan de notre 15 de France.
Monsieur, un grand, grand merci. On a pour habitude dans Poulain Raffut de donner la parole à la star de cette émission pour le mot de la fin. Évidemment, vous l'avez compris, la star, c'est Raph Poulain.
Que dire, les gars? Je vous remercie pour ce moment privilégié. J'ai eu la chance de planter un drapeau au milieu du Parc des Princes avec Caïs. C'était des débuts. J'aurais peut-être la chance, sans aucune compétition prévue, Nicolas, de faire une belle troisième mi-temps avec toi, sans compétition. Je te tords au cul sec, je suis persuadé, j'ai trop d'entraînement pour toi. Où je te prends au début de ta fin de carrière, comme ça, quand tu arrêtes, comme ça, voilà, un petit pouce au crible. Non, plus sérieusement, les gars, je suis ravi parce que on parle de plus en plus de sensibilité, de remise en question, d'environnement, et je suis très content, et je le dis toujours, si la société s'inspire des valeurs du rugby et du sport, on va dans le bon sens. Si le sport s'inspire des valeurs de la société, on est dans la merde. Vous nous prouvez que vous êtes précurseur. Vous êtes dans une belle utopie qui va devenir un rêve et une belle réalité. Et je serais ravi de participer aussi à vos projets, en tout cas en les mettant en avant, dans Poulain la Flûte, ici, et plus tard, si je peux le faire, avec grand plaisir. Donc, je vais fermer ma gueule et je vais continuer à vous admirer dans vos trajets respectifs. À très bientôt, messieurs.
À voilà, bientôt, c'est tout pour aujourd'hui dans Poulain Raffut. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et toujours avec la banane. Merci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.